France Inter, le 18-20.
Et c'est parti, on est ensemble pour 3 heures en attendant une prise de parole qui sera aussi importante sur le fond que sur la forme de la part du président Macron. Le président, vous l'avez entendu dans le journal, qui a rencontré élus et partenaires sociaux, mais n'a rien dit de ce qu'il préparait ou de ce qu'il dirait. Ce qui fait monter une attente importante, peut-être déjà d'ailleurs trop importante. Alors, puisqu'on a du temps devant nous, arrêtons-nous d'abord sur ce qu'il peut faire des demandes économiques qui ont déjà été formulées un peu dans tous les sens, il faut le dire. Pêle-mêle hausse du SMIC, mais il semble que sa ministre du Travail ait déjà répondu sur ce point, on y viendra. Revalorisation des minima sociaux, baisse des charges sociales pour avaler les hausses de salaire ou pas. J'y mets évidemment des points d'interrogation. Hausse des salaires les plus bas dans les entreprises, retour à l'ISF. Là-dessus, c'est lui, Emmanuel Macron, qui a fait savoir la semaine dernière qu'il n'en était pas question, mais après tout, allez savoir. Alors, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui doit être fait qui calmera la colère des gilets jaunes? Qu'est-ce qui donnera l'image d'une présidence maîtrisée plutôt qu'une improvisation dans l'urgence et permettra peut-être à l'État de fonctionner normalement à nouveau, à moins que ce soit trop tard, et nous y viendrons aussi ce soir, mais pas de panique, ce sera en deuxième heure. Chaque chose en son temps, merci d'être là aussi nombreux comme d'habitude et bonsoir.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Allez Lise, c'est vous qui ouvrez le bal, soyez la bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Oui, bonjour, je voulais poser une question pour le CICE.
Allez-y.
Voilà, donc il existe depuis le 1er janvier 2013, ça représente 20 milliards d'euros par an. Entre parenthèses, c'est Emmanuel Macron qui est un des principaux artisans. Il y a des entreprises comme McDo qui en profitent largement alors qu'on sait que ce sont les rois de la défiscalisation. Il n'est pas prévu pour ce CICE de contrôle a posteriori pour l'utilisation. Il faudrait savoir si ces sommes importantes distribuées aux entreprises ont un réel impact sur l'emploi et les salaires. Ne faudrait-il pas améliorer le contrôle et leur affectation afin de récupérer quelques milliards pour les salariés? L'augmentation de salaire semblant être devenue un gros mot depuis quelques années. Voilà.
Et merci pour cette entrée en matière, Lise. Pour vous répondre, pour discuter ensemble jusqu'à 19h sur France Inter, Agnès Verdier-Molinier, là, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de l'IFRAP Think Tank Libéral. Bonsoir à Mathieu Plane.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE. On va commencer avec cette interrogation sur le CICE. Il y en a beaucoup des questions de ce genre-là qui ressemblent à celles de Lise Mathieu Plane. D'abord, est-ce que le contrôle a posteriori est prévu? Et surtout, est-ce que déjà, de toute façon, le réel impact, on peut en parler, le chiffrer ou pas?
Oui, alors il y a une évaluation qui est réalisée pour entrer dans les détails techniques, par France Stratégie, un comité de suivi du CICE, d'ailleurs, qui réunit des partenaires sociaux. Le problème, c'est que, effectivement, c'est un dispositif assez particulier, assez compliqué, notamment évalué, parce que c'est un crédit d'impôt, mais qui repose sur une masse salariale, et donc c'est un dispositif de coût du travail, donc il y a quand même une incitation. Les effets sont controversés, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet du CICE, mais la question qui se pose, c'est surtout sa transformation en 2019, en baisse de cotisation, parce que c'est une baisse de coût du travail, mais qui passe par un crédit d'impôt, donc c'est un peu compliqué. Donc Emmanuel Macron l'avait inscrit dans son programme, cette transformation du CICE en baisse de cotisation sociale patronale. Mais dans l'intervalle, la transformation va entraîner un versement exceptionnel de 20 milliards en 2019, une double année, à la fois la baisse de cotisation plus le versement décalé, fait qu'il y a un gros montant qui va être affecté pour les entreprises sur cette année-là. Et c'est vrai que la question peut se poser d'un point de vue budgétaire, si la transformation d'une seule fois représente pas un coût trop élevé pour les finances publiques et s'il fallait pas un peu plus l'étaler, ou est-ce que ça permettait pas de redéployer des marges de manœuvre. Donc en tout cas, il y a un débat autour de toute cette question qui va au-delà même aujourd'hui des effets propres du CICE, parce que finalement, même si c'est important de les évaluer, le CICE va être transformé en baisse de cotisation sociale patronale.
Agnès Verdier-Molinier, j'avais cru comprendre vous que cette transformation précisément en baisse de cotisation n'était pas exactement ce qui vous semblait le plus judicieux.
En réalité, il y a eu beaucoup de critiques sur le CICE quand il a été créé. Mathieu Plane vient de le dire, c'est assez compliqué parce que en fait, c'est pour baisser les charges, mais ça passe par une créance sur l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, on baisse l'année d'après l'impôt sur les sociétés si on réalise des bénéfices. Si on n'en réalise pas, ben après, on peut aussi reporter dans les années suivantes. C'est pour ça d'ailleurs que du CICE, on en aura en 2019, mais aussi en 2020, en 2021, parce que ça va se reporter aussi sur les années suivantes. Là où François Hollande avait été assez sioux dans sa manière de prévoir les choses, c'est qu'il prévoyait finalement une incitation formation, mais qui n'était payé que l'année d'après. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de critiques en disant, ce serait quand même mieux d'avoir une baisse de charge toute simple, ce serait plus efficace, ce serait immédiat, etc., etc. Ce qu'a proposé le gouvernement actuel, c'est de dire, finalement, on va basculer en baisse de charge. Mais c'est vrai qu'il y a une année bascule qui est compliquée à gérer parce que il y a les créances des années précédentes et vous pouvez pas dire aux entreprises qui ont droit à du CICE, on va vous annuler votre CICE parce que ce serait finalement de la spoliation, tout simplement, parce que c'est une mesure qui existe. Et puis de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a ce double compte. Alors nous, ce qu'on propose à la Fondation IFRAP, c'est finalement d'en rester au CICE tel que François Hollande l'avait conçu, parce qu'il y a toujours cet avantage de payer l'année d'après par rapport aux charges effectives payées par les entreprises. Et par ailleurs, parce que nous considérons qu'une des urgences, c'est plutôt de baisser les taxes sur la production qui pèsent sur nos entreprises, qui sont payées notamment dans les territoires, qui sont de l'ordre de 70 milliards de plus que les entreprises allemandes, par exemple, et qui font que ça grève la compétitivité de nos entreprises. Il ne faut pas croire que le CICE, qui bascule en baisse de charge ou pas, résout tous les problèmes de compétitivité des entreprises. Et quand les entreprises sont pas compétitives, elles créent pas d'emplois sur les territoires.
Alors après, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont très symboliques dans cette crise, et c'est pour ça que ce genre de questions revient sur le tapis. Les fameux 20 milliards, Lise a raison sur le chiffre, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour la plupart des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'on a mal fléché au système ou à la mode ce CICE en le donnant finalement à tous et y compris à ces entreprises qui déficient comme le faisait remarquer Lise?
Je pense qu'il y a plusieurs points là-dessus. C'est-à-dire que, premièrement, effectivement, le CICE, c'est un montant important. C'est même un peu plus de 20 milliards. Qu'à ça, c'est même ajouté, sous le quinquennat précédent, le pacte de responsabilité. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits du côté de la compétitivité d'entreprise en termes de coût du travail sous le quinquennat. Et c'est vrai qu'il a fallu le financer et que c'est plutôt les ménages qui ont payé la facture parce qu'il a fallu réduire les déficits et financer les baisses de fiscalité pour les entreprises. Donc, un effet pouvoir d'achat dont on parle. Sur le fléchage, la question s'est posée de savoir est-ce qu'il valait mieux pas avoir un dispositif qui soit plus axé sur, par exemple, l'industrie parce qu'elle est exposée à la concurrence internationale et c'est ça les aspects compétitivité. Ou alors avoir un aspect plus emploi, plus axé sur les services. Le problème du CICE, c'est plutôt la vision que je peux avoir, c'est que on a voulu faire un dispositif d'abord hybride, dans lequel on veut faire de la compétitivité et de l'emploi. Or, c'est pas exactement les mêmes axes, c'est pas forcément les mêmes choses pour faire de la compétitivité et de l'emploi. Effectivement, l'industrie, en termes de compétitivité, il y a un certain nombre de dispositifs qui pourraient fonctionner. En termes d'emploi, ça serait plutôt, effectivement, par des mesures autour du coût du travail au niveau du SMIC, ce qui a été fait. Donc, en fait, on n'a pas vraiment bien cerné à quoi servait le CICE. C'est vrai que c'est une grosse masse, mais en voulant faire à la fois de la compétitivité et de l'emploi, on s'est peut-être un peu perdu dans les objectifs recherchés.
Et pardon de dire des choses de manière aussi simplissime avant de retourner au standard. Et lorsqu'on entend des gens nous dire « Non mais attendez, on pourrait redistribuer ces 20 milliards ou les distribuer différemment et en profiter pour augmenter, par exemple, effectivement, le salaire minimum ou un certain nombre de salaires », qu'est-ce qu'on répond aux gens? Parce que des questions de ce type-là, on en entend plein les barrages. Qu'est-ce qu'on répond aux gens? Attendez, on peut réfléchir ces 20 milliards-là.
En réalité, il ne faut pas se tromper. Ces 20 milliards-là, c'est 20 milliards de déficit supplémentaire pour l'État. Et si jamais on arrive à afficher quand même un déficit qui n'est pas, en dehors des clous, c'est parce que, en gros, vis-à-vis de Bruxelles, on dit, ces 20 milliards, c'est un double compte, c'est exceptionnel, etc. Donc cet argent n'existe pas, en réalité. Il n'y a pas à redistribuer ces 20 milliards. C'est une erreur économique de croire qu'il y a 20 milliards qui existent et qu'il y a un dispositif qu'on arrête et qui avait finalement des impacts sur les années suivantes, et il y a un nouveau dispositif qui est créé. Ce que peut décider le gouvernement, c'est de le décaler, voire de dire, on conserve le CICE tel que François Hollande l'avait conçu. Pourquoi ce serait intéressant? Parce qu'en fait, Bercy, dans son idée aussi d'y gagner un peu sur cette transformation, a sous-calibré les baisses de charges par rapport au CICE. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises sont perdantes sur le long terme en nombre de milliards. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, c'est sous-calibré de 2 à 3 milliards d'euros par an. Et en réalité, ce sera moins intéressant pour créer des emplois. Et ce qu'a dit Mathieu, c'est qu'on a du mal à évaluer combien ça a pu créer d'emplois. Mais je pense, moi, que ça a beaucoup sauvé d'emplois aussi dans des situations de petites entreprises dans les territoires qui, finalement, étaient très justes et qui, grâce au CICE, n'ont pas fermé, tout simplement.
Mathieu Plame, vous vouliez ajouter quelque chose vite et on retourne au standard.
Non, allez-y. C'est vrai que plutôt les effets, même si, étant donné les montants, on peut être déçu sur l'impact sur l'emploi, l'emploi. Effectivement, les évaluations aujourd'hui en termes d'impact macro sont quand même, en termes d'emploi, autour de 200 000 créations ou sauvegardes d'emplois. Donc, c'est pas totalement négligeable. Après, comme vous disiez, on aurait peut-être pu faire différemment et mieux avec le même montant, mais on ne peut pas dire que le CICE n'ait servi à rien.
Allez, bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
Bienvenue sur Inter, Jean-Louis, on vous écoute.
Merci, j'ai voté Macron au second tour, mais pas pour qu'il fasse comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire aggraver la ruine du pays. Bien sûr qu'il y a des Français qui sont dans la difficulté, je vais pas contredire ça. Mais il faudrait que tous les gens en responsabilité, qu'ils soient politiques, syndicalistes, économistes, médiatiques, aient le courage de dire et de faire comprendre les réalités du pays. Or, on n'a jamais entendu quand même autant de sottises pour parler poliment. Hein. Or, la réalité, c'est que le budget de l'État, c'est 243 milliards de recettes en 2018, 329 milliards de dépenses. Chez moi, ça fait un déficit de 86 milliards, c'est-à-dire 25% des dépenses qui sont financées par de l'emprunt et non pas 3% comme on nous bassine avec ce truc inventé par Fabius il y a 30 ans. Bon. Donc, ce soir, le président de la République, il va dire... oui, on va faire des trucs en plus, c'est du déficit en plus, ça c'est garanti. Il y a déjà 2300 milliards de dettes qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, et tout le monde est content. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même un peu plus expliquer. Moi, je comprends que les Français ne sachent pas quelles sont les réalités de l'économie, etc. Bon, mais il faudrait quand même avoir le courage de leur expliquer. Non pas seulement faire preuve d'autorité à un moment, mais avoir le courage de leur expliquer. Sinon, il faut mettre les populistes au pouvoir, ça sera alors vraiment la ruine plus accélérée. Et puis tout le monde aura compris qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je voulais juste ajouter
rapidement
une chose.
Rapidement, Jean-Louis, s'il vous plaît.
Quand on est face à des situations comme ça, excusez-moi, mais je repense toujours à John Kennedy disant « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Merci.
Merci Jean-Louis pour votre question. Ce qui est difficile, Mathieu Plane, c'est le discours des chiffres. Les chiffres que donne notre auditeur Jean-Louis sont justes, très bien. Mais ce sont des choses où, en tout cas, partiellement, semble-t-il.
Non, mais c'est l'analyse qui peut être faite. Il n'y a pas une seule réalité économique qui peut être axée sur ce. Enfin voilà, sur l'analyse là.
Après, nécessite toute, quand même... toute la question de ce mouvement-là, effectivement, c'est que ça, tout ça, ne peut pas parler aux gens qui sont sur les barrages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nécessiterait cependant d'être expliqué, qui peut-être ne l'a pas été selon vous. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à expliquer qui ne l'ont pas été selon vous et qui provoquent ce qu'on voit aujourd'hui ou pas du tout?
C'est compliqué parce que il y a peut-être l'impression que, enfin c'est mon analyse, que l'économie est quand même devenue extrêmement technique. Et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de batailles de chiffres, là, on voit avec cet auditeur. C'est vrai qu'il faudrait expliquer pourquoi on regarde les déficits publics de l'ensemble des administrations publiques et pas celui de l'État.
Les gens qui sont sur les barrages et qui nous écoutent peut-être aujourd'hui en écoutant Jean-Louis,
que les dépenses de l'État, c'est 35% des dépenses publiques, que plus de 50% de la dépense publique, c'est de la protection sociale, essentiellement des retraites et de la santé. Donc tout ça, voilà. Mais on rentre dans une bataille de chiffres. Pourquoi les 3% sont pas une bonne règle? Donc, je pense que on peut toujours continuer à expliquer et à discuter, mais il y a aussi quand même ce besoin de remettre peut-être le politique aussi au centre du jeu et donner une orientation. On voit que les mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron finalement sont très proches de son programme, mais qu'il y avait une espèce de Tetris fiscal assez complexe à comprendre, avec beaucoup de transferts, et qu'aujourd'hui il y a peut-être une désorientation par rapport au chemin poursuivi, et qu'il y avait un timing, il y avait un calendrier fiscal que je crois qu'il a été un peu compris, mais que globalement il faut aussi trouver du sens à tout ça, et c'est peut-être ça qui manque un peu.
Agnès Verdier-Molinier, sur le sens, qu'on a beaucoup entendu, effectivement, parler de sens, parler pas tant d'impôts que d'injustice fiscale, ce sont des choses qui sont extrêmement différentes.
Oui, mais en réalité, je crois que on a atteint un niveau de fiscalité qui est très très important. Pourquoi? Parce qu'on essaie de financer, ce qu'expliquait Jean-Louis, un niveau de dépenses publiques qui est quasiment infinançable. Donc, c'est aujourd'hui, c'est la question des carburants. Demain, ce sera peut-être la question du prélèvement à la source en janvier 2019. Ça peut être n'importe quel sujet fiscal parce qu'on est arrivé à niveau de saturation. Mais pas simplement dans la ruralité, pas simplement dans tel ou tel quartier, etc. Sur l'ensemble de la population française, on est arrivé au maximum. Et sur nos entreprises, c'est pareil. Donc, à un moment, il faut que ça reflue. Et c'est pour ça, quand on parle d'un Grenelle de la fiscalité, d'un grand débat sur la fiscalité, etc., on met les choses à l'envers. Le grand débat, il faut qu'il ait lieu sur la dépense publique. C'est où va l'argent? Comment sont utilisés les euros que nous mettons tous dans la cagnotte commune. Et est-ce que finalement, on pourrait pas dépenser moins? Est-ce qu'il faudrait rappeler quand même qu'on est à 56% de dépenses publiques par rapport au PIB? C'est vrai que dedans, il y a de la retraite, il y a de la santé, etc. Mais il y a aussi beaucoup de coûts de distribution. Par exemple, 42 milliards sont dépensés tous les ans pour distribuer l'argent de la protection sociale. Rien qu'en coûts de distribution, parce que on enchevêtre les compétences, parce qu'il y a des échelons différents qui s'occupent tous des mêmes sujets. Donc là-dessus, on est beaucoup plus cher que les autres. Là où nous, on dépense 56% de dépenses publiques.
On peut donner aussi bien en donnant moins, vous pensez ça?
Mais bien sûr, les autres pays de la zone euro sont
c'est
à 40.
C'est pas là qu'il y a
une grosse différence entre la France et les autres pays de la zone euro sont à 47% de dépenses publiques. Nous, on est à 56. Oui. Là où nous, on va dépenser 42 milliards pour la distribution de l'argent de la protection sociale, les autres pays de l'Union européenne, c'est 10 milliards de moins en moyenne. Et la zone euro, c'est 6 milliards de moins.
Mais avec une meilleure protection.
En réalité, notre protection sociale, elle est pas excessivement meilleure que dans les autres pays.
Mais c'est pas une question d'être meilleure, c'est qu'elle est publique.
Elle est surtout plus chère. Voilà. Donc à un moment, il faut se poser la question de comment on pourrait la gérer mieux. Pour avoir des services publics de qualité et une protection sociale de qualité sans la surpayer. Et ça devrait être ça le débat. Et les annonces du président de la République, ça devrait être avant tout comment on réunit tous les acteurs publics pour arriver à baisser cette dépense.
Mathieu Plane.
Oui, juste deux points. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la distinction. La France est le pays dans lequel la dépense publique est le plus élevé, un des plus élevés du monde. Mais il y a quand même deux ou trois raisons à ça. La première, c'est effectivement la protection sociale. Les prestations d'origine publique sont les plus importantes aussi du monde, c'est-à-dire que le reste à charge privée est très faible, donc il n'y a pas de fonds de pension, notamment du côté des retraites. Les mutuelles sont relativement faibles en France par rapport aux autres pays, ça c'est le point protection sociale. Sur l'éducation, on a une structure démographique et importante en termes de nombre d'enfants rapportés à la population, ce qui fait que ça impacte aussi sur les budgets d'éducation, sur les infrastructures, et on a un budget de la défense qui est plus important que la moyenne. Donc déjà, quand vous recentrez ça, vous voyez qu'après, vous pouvez améliorer l'efficacité, vous pouvez faire un système qui soit plus performant, mais globalement, vous gagnez pas 10 points de PIB. Les 10 points de PIB sont liés aussi à des choix et des modèles qui peuvent être différents. Après, on est tous d'accord que
sur la question des retraites, qui est un sujet fondamental en termes de dépenses publiques, puisque c'est plus de 300 milliards de dépenses publiques par rapport à 1300 milliards, les autres pays, ils ont des systèmes de retraite qui sont très bien aussi, qui sont en grande partie publics d'ailleurs.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais attention,
ils ont
repoussé l'âge de départ à la retraite.
Ils n'ont pas la même structure démographique.
Et quand vous regardez tous les pays d'Europe, on est plutôt à 65 ans d'âge de départ
regardez
à la retraite.
Regardez les projections de la Commission européenne là-dessus, qui montrent que la France, sur la soutenabilité des dépenses de retraite, est bien devant la plupart des pays européens grâce à une démographie dynamique.
Donc on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a le temps passé à la retraite qui est parmi les plus élevés du monde, et on a un système qui finalement repose sur moins d'actifs proportionnellement. Donc à un moment, il faut qu'on se pose la question de repousser l'âge de départ à la retraite. C'est tellement évident. Ça fait partie des sujets qu'il faut absolument affronter.
Mais regardez les projections
peut-être que dans le débat aujourd'hui, la manière dont il est parti aujourd'hui et ce qu'on entend de la part des gens qu'on appelle les gilets jaunes, parce que c'est pas exactement la priorité à avoir maintenant.
Ça devrait être la priorité parce qu'on peut pas baisser la fiscalité dans ce pays si on ne déplace pas notamment l'âge de départ à la retraite de 3 ou 4 mois par an jusqu'en 2022, voire jusqu'en 2028, et on se mettrait juste au niveau de la moyenne des pays européens.
Regardez les projections de la Commission européenne là-dessus, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles ne vous donnent pas du tout ce diagnostic-là. Sur la soutenabilité des modèles sociaux et en particulier des retraites, le fait d'avoir justement des décalages de génération qui sont beaucoup plus importants dans les autres pays nécessite des réformes qui sont aussi différentes. On ne peut pas faire comme l'Allemagne quand on n'a pas la même démographie. C'est pour ça qu'il faut regarder cas par cas et regarder les projections.
Non, mais je ne parle pas que de l'Allemagne, je parle de l'ensemble des pays.
Non, mais on n'a pas besoin de s'aligner sur la moyenne européenne. À partir du moment où on n'a pas le même nombre
qui ont tous compris qu'on a une espérance de vie qui augmente et qu'à un moment, on ne peut pas passer plus de 20 ans à la retraite sans mettre en péril l'équilibre du système.
Il y a eu d'abord, premièrement, il y a eu des réformes de retraite qui ont été réalisées. Enfin, il faut regarder toutes les projections.
Il est censé y en avoir une autre à venir maintenant, effectivement.
Il y a une réforme qui est attendue.
Mais ce conflit dépendra quand même si se passe derrière.
Sur les économies qu'il faut qu'on réalise, parce que c'est une trentaine de milliards d'économies qu'il faudrait trouver pour réussir à baisser la fiscalité derrière. Le Premier ministre l'a dit, je crois qu'il a dit quelque chose de très juste. On ne baisse pas la fiscalité si on ne baisse pas la dépense publique. Un tiers des économies à réaliser, c'est sur le décalage de l'âge à la retraite. C'est obligatoire. On n'a pas d'autre marge de manœuvre.
Mathieu Plane.
La dépense publique, une fois de plus, c'est quand même quelque chose qui va soit vers les ménages, soit vers les entreprises. Donc, c'est vrai que si on voit la difficulté à baisser la dépense publique sans qu'il y ait d'impact soit sur le revenu des ménages, soit sur la situation des entreprises. C'est là où est la difficulté actuelle. Bien sûr, je pense que tout le monde s'intéresse à gagner en efficacité. Mais par contre, il ne faut pas laisser croire qu'il est facile de la baisser sans qu'il y ait des conséquences ou des transferts qui ne seront pas réalisés.
Il vaut mieux un
décalage
d'âge.
On voit la désindexation des retraites aujourd'hui.
Oui, mais justement, vous préférez ça ?
Pourquoi alors ? Non, mais pourquoi ça a été fait ?
Non, mais
trouver des économies qui font plusieurs dizaines de milliards et qui soient sans impact, soit sur le revenu de vie, soit sur le revenu des ménages, soit sur la situation des entreprises. Et donc là,
on ne peut pas préférer des mesures qui sont mal ficelées, parce que contrairement à ce que vous dites,
malheureusement,
notre système de retraite tel qu'il est aujourd'hui n'est pas tenable, n'est pas finançable dans la durée, et on le verra de plus en plus dans toutes les enquêtes du corps et tout ça, dans tous les rapports, on verra que ça va être de plus en plus compliqué d'imaginer qu'on va être à l'équilibre dans les prochaines années. D'ailleurs, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient dit pendant la campagne présidentielle, où ils avaient dit il n'y a pas de problème sur le système de retraite. En réalité, derrière, ils ont pondu un autre rapport qui disait plutôt l'inverse. Donc, ne choisissons pas des mesures ponctuelles et des mesures de coup de rabot et de désindexation qui exaspèrent la population,
alors que si on est sur la
préparation de l'avenir en fonction de cette espérance de vie qui augmente, là, on est cohérent.
Sauf qu'il y a
vous ne pouvez pas dire qu'il y a 10 points de PIB de plus en France, qu'on peut, juste par des gains d'efficacité, diminuer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça.
Et sauf qu'il y a un contexte, pardonnez-moi, je voudrais qu'on retourne au standard, il y a aussi un contexte aujourd'hui qui rend forcément ce genre de discussion probablement extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle cette fameuse réforme des retraites, on ne sait pas si on la verra. Est-ce que vous pensez qu'elle est faisable en l'état ? Est-ce qu'on peut discuter de ce sujet-là réellement dans les mois qui viennent ?
Mais si on revient aux fondamentaux de ce que disaient les Gilets jaunes, il y a eu énormément de choses qui se sont agrégées depuis, et vous l'avez rappelé très justement, mais au départ... Il disait, on paie trop de fiscalité et on aimerait savoir aussi ce qu'on fait en utilisation dans le système avec cette fiscalité. C'était ça la ligne de départ. Ensuite, il y a eu plein de choses qui sont arrivées.
Injustice fiscale plus que l'impôt réellement, c'était l'injustice fiscale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Il y a justement quelque chose d'important et ça rejoint peut-être la question de tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on peut ajouter ou qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu quand même une crise financière majeure et une crise économique sans précédent. C'est-à-dire que la rupture des niveaux de vie, depuis 2008, on ne l'avait pas vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que dans l'intervalle, il a fallu boucher les déficits. C'est-à-dire qu'on a quand même un déficit qui passe de 2,5 points de PIB en 2007 ou 2008. En 2009, on est à plus de 7 points de PIB. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même une rupture énorme. Et là, ce n'est pas lié à une gabegie de dépenses publiques ou une mauvaise gestion globale, c'est vraiment lié à une crise économique très forte. Et donc, il a fallu combler ces déficits. Et c'est vrai que la fiscalité a beaucoup porté sur les ménages. Les ménages ont vu leur impôt augmenter.
Et par contre,
les services publics n'ont pas augmenté en face. Donc, il y a eu un décalage, si vous voulez, entre l'augmentation des prélèvements sur les ménages, la fiscalité, et les prestations qui ont plutôt été rabotées ou diminuées. Et donc, ce décalage-là pose
cette question. C'est l'erreur classique en France. C'est-à-dire qu'au lieu.
C'est pas classique, c'est quand même lié à une crise financière à la base qui est quand même extrêmement forte.
Oui, mais tous les pays ne se retrouvent pas dans la situation de la France à bientôt 100%.
Regardez ce qui se passe dans les autres pays. On
ne
peut pas dire que ce soit non plus le bonheur absolu.
Et avec le poids de fiscalité que nous avons.
Ce que je veux dire, c'est que regardez les pays qui ont des poids de fiscalité qui sont plus faibles, comme le Royaume-Uni par exemple. On ne peut pas dire que pour autant, il n'y ait pas eu de problèmes ou des conséquences politiques majeures.
On n'a pas dit jusqu'à maintenant qu'on est le pays le plus taxé d'Europe. On ne l'a pas dit. Et pourtant, c'est la réalité. On est passé devant le Danemark. On est le pays qui, à la fois sur les entreprises et sur les ménages, charge le plus fiscalement. Et on a un nombre de taxes et d'impôts, on n'arrive même pas à faire la liste tellement c'est pléthorique. Donc, à un moment, il faut, si on veut vraiment un reflux en la matière, et là aussi, les autres sont à 40%. Nous, on est plutôt autour de 45. Allez, on va dire 5 points en termes de richesse nationale d'écart.
Mais dites où vous baissez en face, justement, les prestations.
J'ai proposé
diminue le nombre de fonctionnaires,
une première chose qui peut faire consensus, c'est la question de décaler l'âge de départ à la retraite, parce que 65 ans, je vous rappelle.
Est-ce qu'on peut, parce que je veux pas qu'on quitte le contexte, en fait, parmi les mesures qui sont faisables immédiatement et qui peuvent redonner de la discussion, on va dire, plutôt que simplement des klaxons et des manifestations, qu'est-ce qu'il peut y avoir, en fait? Est-ce qu'il y a un levier qu'Emmanuel Macron peut utiliser immédiatement? On entend effectivement parler de SMIC. Est-ce que, tiens, allons-y comme ça. Est-ce que oui ou non, augmenter le SMIC, par exemple, serait réalisable, faisable ou suicidaire?
C'est toujours une possibilité. Effectivement, ça serait compliqué de le vendre sans dire qu'il y aurait que tout serait positif, parce qu'on a potentiellement des effets qui peuvent être négatifs sur l'emploi. Alors, légèrement négatifs, nous, on n'est pas du tout dans les évaluations qui circulent. On disait que 1% de coup de pouce au SMIC, ça faisait 2300 destructions d'emplois, parce qu'il y a un effet de soutien à la demande, il y a les allègements de cotisations du coup qui pourrait augmenter parce que il y a un effet sur les bas salaires. Oui, c'est une mesure forte. Maintenant, on voit que c'est vrai que c'est assez contradictoire, voire orthogonal avec la politique qui est menée depuis un certain nombre d'années, qui vise justement à gagner en compétitivité en baissant le coût du travail. Donc, on voit mal le gouvernement porter cette mesure-là. Mais par contre, c'est vrai que si vous regardez le pouvoir d'achat du SMIC, depuis 2008, il a quasiment pas augmenté. Alors, il avait fortement augmenté entre 2000 et 2008, mais maintenant, depuis quasiment 10 ans, il a très peu augmenté. Donc, c'est une question qui peut se poser. Le gouvernement fait plutôt le choix de revaloriser les primes la prime d'activité.
Visiblement.
Mais c'est vrai que la prime d'activité reste une prestation. Et on peut pas comparer une prestation à une hausse de salaire, ça ouvre pas non plus les mêmes droits. Et surtout, vous êtes soumis, quand il y a une prestation, à des modifications législatives, à un changement de gouvernement qui pourrait la raboter, par exemple.
Alors, il y a aussi des gens qui veulent payer des impôts. Figurez-vous, voici Daniel. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous permettez, je voudrais vous donner deux chiffres. Je suis en retraite depuis 18 ans. Eh bien, ma retraite en euros constants, a très légèrement augmenté. Deuxième indication, nous avions il y a 3 ans, 3 personnes de notre entourage en EHPAD qui, avec leur retraite et l'aide publique, pouvaient payer les EHPAD à 100%, c'est-à-dire que nous n'avons eu aucun engagement d'obligé alimentaire. Alors voilà, j'en arrive à ma suggestion, hein, par solidarité, puisque ma femme et moi, nous sommes nés dans les années 40, nous avons très largement bénéficié des 30 glorieuses, et nous avons aussi largement contribué au dérèglement climatique, etc.
C'est vous alors, Daniel.
Pardon.
C'est vous alors.
Oui. Encore que nous sommes écolos et les copains qui écoutent France Inter, qui nous connaissent bien, verront de quoi il s'agit. Nous votons toujours à gauche et je crois que nous allons continuer. Alors voilà, ce que nous voulons proposer, eh bien, c'est tout simplement par solidarité. J'ai dit que nous avions 3 SMIC, l'équivalent de 3 SMIC de retraite. Par solidarité, ben, nous acceptons d'être davantage éco-taxés. Tout simplement.
Et à hauteur de combien, Daniel, vous accepteriez d'être éco-taxé? Vous avez fait vos petits calculs personnels ou pas?
Oui, oh là là, on a de la marge, hein. 200 € par mois, ça me paraîtrait tout à fait raisonnable, hein.
Et alors, 200 € par mois, dites-donc, oui. C'est une somme quand même,
oui,
Daniel. Et alors, avant qu'on en parle avec nos invités, moi, je suis assez curieuse quand vous entendez, du coup, parler autour de vous, les gens qui portent des gilets jaunes, etc. Oui. Ça vous laisse quel genre de sentiment? Est-ce que vous arrivez à échanger avec eux? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous dites, moi, je suis prêt à donner 200 € de plus par mois? Ça me paraît une grosse somme quand même.
C'est de la folie. Non, mais on a beaucoup de copains parmi les gilets jaunes, on en a dans notre famille également. Alors, ce qu'on constate, mais ça c'est une porte ouverte, hein, ça a été dit très largement dans les médias, c'est que les pauvres, on en a dans notre entourage et dans notre quartier, les vrais pauvres, ils sont pas gilets jaunes. Hein. Les vrais pauvres, ils n'ont pas de voiture et ils ont des difficultés financières très 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 difficiles. Les gilets jaunes que nous connaissons, eh bien, c'est des gens qui ont, qui sont salariés, hein, pour la plupart, et qui ont bien souvent un peu plus de 2 SMIC, hein, qui effectivement ont du mal à terminer leur mois. Alors je leur dis, vous confondez pouvoir d'achat et niveau de vie. Parce que, effectivement, je crois que dans l'ensemble, leur niveau de vie a très légèrement augmenté, mais leur pouvoir d'achat a baissé. Parce que ils ont des dépenses que je condamne pas du tout, hein, mais ils ont une plus grosse voiture que nous. Nous avons une Twingo. Mmh. Et ils en ont 2, même, pour certains, qui travaillent dans la ville.
Ben, hein, oui, mais parfois, c'est obligé, Daniel.
Oui, mais... Oui, bien sûr, mais je leur donne des exemples, parmi lesquels ils pourraient soit covoiturer, soit même quelquefois aller chercher leur pain à vélo ou à pied, alors de prendre la voiture, des exemples comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des situations très très difficiles, surtout parmi les familles monoparentales. Hein, je comprends, une femme qui reste seule avec ses 2 ou 3 enfants et qui a un SMIC comme salaire, voilà. Effectivement.
Et là, les fameux 200 € de taxe carbone ou autre. Ça devient compliqué, mais merci Daniel en tout cas pour votre témoignage, Mathieu Plane. Alors oui, évidemment que 3 SMIC, il dit l'équivalent de 3 SMIC, Daniel, forcément ça ouvre peut-être un certain nombre de perspectives.
3 SMIC, enfin, je suppose que c'est en couple. Hein.
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre de la part de Daniel.
Effectivement, à un niveau de vie sachant que le niveau de vie médian est autour de 1 700 euros, effectivement, à deux, oui, non, ça fait même un peu plus que le niveau de vie médian. C'est, on va dire, classe moyenne supérieure. Après, voilà, c'est un témoignage qui est intéressant. Je pense qu'il y a effectivement une forme de consentement à l'impôt quand vous savez quel droit ça vous ouvre. Il y a, moi, je pense, des choix de société. Hein, on en discutait avant. C'est vrai qu'il faut savoir, en face des impôts que vous payez, les prestations que vous pouvez recevoir justement en France et que vous n'aurez pas forcément ailleurs. À ce moment-là, mettons tout sur la table et discutons de savoir qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère une part, effectivement, sur les prestations un peu plus importantes, on paiera moins d'impôts et avoir un peu moins de prestations, mais par contre une part du privé qui serait plus importante. Enfin, tout ça sont des discussions, hein, et à mon avis, il y a quand même un certain nombre de choix de société qui sont derrière. Le modèle français est quand même un modèle assez particulier là-dessus. Hein. Donc voilà, on peut pas juste, à mon avis, avancer des chiffres en disant on va converger vers la moyenne européenne sans remettre en question ce modèle-là.
Ce que dit Daniel, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il représente pas la moyenne des retraités. Hein. Il est bien au-dessus en termes de niveau de pension par rapport à la moyenne des retraités. Et puis, par ailleurs, il faut savoir que l'augmentation de la fiscalité écologique, hein, telle qu'elle était prévue, était quand même gigantesque pendant ce quinquennat. On a parlé de l'augmentation de la TICPE, c'est la taxe sur les carburants pour 2019. C'était 3,9 milliards qui étaient prévus. En tout, ça faisait une augmentation de 4,9 milliards. Mais jusqu'à la fin du quinquennat, si vous prenez le début du quinquennat, la fin du quinquennat, c'est plutôt 17 milliards d'augmentation en valeur de fiscalité écologique. Il y a un moment où ce n'est pas possible.
Donc, il fallait l'enlever concrètement.
Mais c'était impossible. On ne comprend même pas, de notre point de vue, nous qui travaillons à la Fondation IFRAP, comment à Bercy, ils ont pu considérer que ce serait tenable, que ce serait finançable par les ménages. Ce n'est pas possible.
C'est vrai que là...
Donc là, il y a un moment où ils ont cru que parce qu'ils supprimaient la taxe d'habitation,
complètement et sur 3 ans. D'ailleurs, visiblement,
apparemment, elle va certainement être supprimée pour 80% des ménages. Dans la peut-être
ce soir. Visiblement, c'est ce qu'il y a dans les mesures.
C'est
peut-être
une erreur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la suppression de la taxe d'habitation
sur 1 an au lieu de 3 ans, c'est ça que ça veut dire.
C'est
en fait,
qu'on accélère le calendrier d'un an.
C'est ça.
Voilà.
Oui, mais la suppression de la taxe d'habitation, le gouvernement avait considéré que ça faisait un trou d'une 20aine de milliards. Donc, il fallait compenser cette 20aine de milliards de trous par de la fiscalité écologique.
C'est ce qui a fait augmenter la fiscalité. Ce que vous dites, vous, c'est que ce qui a fait augmenter la fiscalité écolo.
Mais c'est complètement lié. Parce que d'un côté, vous avez un tableur à Bercy qui vous dit, bah voilà, je baisse de 3,8 milliards par an les recettes au niveau de la taxe d'habitation. Et de l'autre côté, bah oui, j'abonde par l'équivalent en fiscalité écologique. Le problème, c'est que vous avez certains ménages qui vont 2 ou 3 fois à la pompe pour chercher du carburant et qui, ça va leur coûter beaucoup plus cher que la suppression de la taxe d'habitation.
C'est un impôt qu'on paye régulièrement par rapport à
la proposition qui je pense serait la bonne, c'est un moratoire total sur les mesures fiscales ce soir. C'est pas juste la fiscalité écologique, c'est on dit on arrête tout. Toutes les mesures importantes qui étaient prévues dans la loi de finances 2019, on les stoppe et ensuite on repart sur une véritable page où on réécrit l'histoire. Parce que sinon, qui va payer la suppression de la taxe d'habitation, les 20 milliards en question? On va encore se refiler un bon taux fiscal des uns aux autres.
Donc c'est on ça, supprime toutes les taxes, Agnès Bardi-Molinier?
Non, on supprime complètement toutes les mesures fiscales qui étaient prévues et on repart à zéro en repartant de la dépense, en disant voilà là où je peux baisser les dépenses. Et en face, où est-ce que je peux baisser la fiscalité?
Mathieu Plane, sur ce raccourcissement, on va dire, du délai de 3 ans à 1 an, donc pour la taxe d'habitation.
C'est vrai que c'est la... Alors, elle pose plein de problèmes, hein, cette réforme-là, mais si on doit la regarder d'un point de vue budgétaire, elle est très ciblée quand même classe moyenne, hein, la réforme de la taxe d'habitation. En tout cas, quand c'était 80% des ménages, vous voyez que c'est quand même très concentré sur les classes moyennes. Il y a à peu près 20 millions de ménages qui sont gagnants. C'est assez conséquent en termes de montant, sauf que les effets se feront sentir en novembre 2019. Ils peuvent être importants parce que 80% des ménages ne paieraient plus de taxes d'habitation, mais c'est pas immédiat. La taxe carbone, c'est une annulation de la hausse, donc ça modifie pas le pouvoir d'achat des ménages. C'est juste qu'ils feront être moins impactés que ce qui était prévu. Donc c'est vrai que la réponse immédiate, aujourd'hui, il n'y en a pas directement sur le pouvoir d'achat, et je voudrais même ajouter, il y en a eu des réponses, mais qui n'ont eu aucun effet. On a l'impression, c'est d'abord la première tranche de taxe d'habitation qui est arrivée en novembre. Et je rappelle qu'en octobre, il y a eu la baisse des cotisations salariées, c'est à peu près 1% du salaire. Et le moment, à mon avis, qui était cette séquence du dernier trimestre, devait être attendu par l'exécutif, parce que c'était le moment où il y avait des mesures fiscales de soutien au pouvoir d'achat. Et pourtant, vous voyez que le moral des ménages, la confiance des ménages est extrêmement dégradée à ce moment-là. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, les réponses fiscales fonctionne pas ou marche pas, et c'est vrai que ça pose la question des salaires et du SMIC derrière. C'est-à-dire que on a l'impression que le pouvoir d'achat est quand même très relié au final, salaire,
gouvernement...
alors que là, on voit qu'on a surtout un mécano fiscal derrière tout ça, qui mord pas, qui marche
pas bien. Le gouvernement a une responsabilité en la matière, parce qu'à force de communiquer sur les 6 milliards de gains en pouvoir d'achat sur l'année 2019, sur laquelle on n'a pas demandé...
Sur la taxe d'habitation
Non, les 6 milliards de gains de pouvoir d'achat, en partie taxe d'habitation. Il y a une addition qui a été faite par Bercy, qui a circulé énormément en septembre, après qu'ils aient renoncé à supprimer le prélèvement à la source, qui a fait monter une attente dans la population.
Mais c'est ce que dit Mathieu Plane. En fait, on a réfléchi et calculé et communiqué même sur des ordres de grandeur que les gens n'ont absolument pas vu sur leur fiche de paye.
Mais qui n'existe pas en réalité. Voilà. Le gain de pouvoir d'achat calculé sur les 6 milliards sur 2019 n'existe pas quand vous le recalculez en mettant dans la balance le prélèvement à la source, l'augmentation des cotisations sur les retraites complémentaires.
Bah, le prélèvement à la source ne doit pas avoir d'effet normalement.
Mais si, ça a un effet. Ça a un effet parce que vous êtes.
Ça a un effet
qu'on peut calculer à 2 milliards d'euros à peu près parce que vous avez un impôt qui est prélevé sur l'année 2019. Vous savez bien que les salaires, ils augmentent d'environ 2% par an. Et donc, résultat derrière, vous allez payer plus d'impôts sur le revenu que vous n'auriez payé précédemment. En plus, les niches fiscales ne sont pas comptabilisées pour la plupart dans l'impact
mensuel.
Surtout,
il n'y avait pas le calcul de la désindexation des prestations qui était aussi important pour l'achat.
Donc, ce que prépare le gouvernement là, et ce qui va être annoncé ce soir, s'il n'y a pas un recul sur le prélèvement à la source et l'annulation de cette mesure, je crois que ça va avoir un effet très très limité, parce que fin janvier, ça arrive dans quelques semaines, et là, tout le monde va regarder sa fiche de paye, et ça va avoir un impact encore plus important que la fiscalité écologique.
Un impact psychologique, effectivement, qui peut être énorme, par ailleurs, autour de la...
Il faut absolument reculer sur ce sujet.
Le prélèvement à la source, cette question de Jean-Philippe, il y en a plein des questions comme celle de Jean-Philippe, qui dit aujourd'hui 80 milliards de fraude fiscale et 17 milliards de fraude sociale, il y a de l'argent à trouver, et il est disponible ici, Mathieu Plane.
Oui, alors c'est pas nouveau, effectivement, mais ça pose la question aussi.
Mais c'est un argument qui tient.
C'est un argument qui est fort, cette question de la fiscalité. On le voit notamment de plus en plus avec les GAFA. Et on voit que l'Europe n'a pas été capable, justement, de se mettre d'accord.
Et d'ailleurs, Bruno Le Maire dit, on ira tout seul.
Ce qui est intéressant là-dessus, je pense que d'ailleurs, on peut penser que justement la France, là-dessus, va peut-être avancer. Est-ce que c'est lié aux gilets jaunes? Est-ce que c'est lié à la colère? En tout cas, on ne peut pas arriver aujourd'hui à avoir une fiscalité élevée, avec des taxations aussi différentes selon le statut de l'entreprise. On voit que les très grosses entreprises peuvent encore échapper à l'impôt dans certaines conditions. On voit que l'Europe n'est pas capable de se mettre d'accord sur un projet qui semble assez cohérent et qui aujourd'hui devrait paraître quasiment obligatoire. Donc la France a décidé d'y aller. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, en tout cas, de dire on préfère peut-être taxer seul que de ne rien faire.
Et sur la fraude fiscale, très concrètement,
Attention, sur ce chiffre de 80 milliards, c'est pas un chiffre qui est gravé dans le marbre, c'est pas le chiffre de Bercy. Le chiffre de Bercy...
Mais c'est quand même beaucoup de milliards, mais c'est quand même beaucoup d'argent.
Il y a une surévaluation de ces chiffres, c'est certainement pas 80 milliards d'euros de fraude fiscale. Ensuite, il y a maintenant... heureusement, des méthodes de ce qu'on appelle du big data pour aller chercher les gros fraudeurs. Pendant des années, le contrôle fiscal, on allait plutôt chercher les petits fraudeurs avec des petits montants plutôt que les gros fraudeurs
qui sont des fraudeurs professionnels. Mieux aujourd'hui. Donc, est-ce que ça peut marcher encore mieux pour faire revenir cet argent-là? Il y a la fraude et il y a l'optimisation aussi.
Je pense que le sujet est quelque chose à ouvrir de ce côté-là.
Forcément,
dès que vous commencez à rentrer dans ces sujets-là, vous êtes obligé de parler d'Europe. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron aussi, ou si les gouvernements précédents prennent des décisions qui vont toujours vers la baisse de la fiscalité du capital, vers plus de concurrence, avec effectivement être plus compétitif le coût du travail, c'est aussi la mise en concurrence des pays qui sont très proches. En fait, la concurrence fiscale, elle est énorme au sein de la zone euro, et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un minimum, au moins, de convergence. C'est-à-dire avec tout ce qui est mobile, c'est-à-dire tout ce qui est fiscalité du capital, il faudrait un niveau de taxation quand même minimum. On voit le cas de l'Irlande aujourd'hui qui a été opposé à taxation des GAFA. C'est compliqué aussi aujourd'hui à justifier en disant mais l'Europe.
Mais sur la fiscalité du capital, malgré la réforme de l'ISF, malgré la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, on est toujours très taxé en France. Ouais. Moi, je vois beaucoup de Français qui sont partis en Belgique, qui sont partis au Portugal, qui sont pas forcément des très riches, mais qui sont partis pour des raisons fiscales.
Et là, c'est compliqué, honnêtement, parce que ces chiffres-là, on a posé la question au moment de l'ISF, faut-il l'enlever, faut-il la remettre, les chiffres réellement de qui est parti ou qui est revenu maintenant que l'ISF a disparu, c'est des chiffres qu'on n'a pas, très concrètement.
Mais là, le problème, c'est que personne ne reviendra tant qu'il n'y aura pas une baisse de la dépense. Moi, je les vois à Lisbonne, je les vois à Bruxelles, etc. Qu'est-ce que je leur demande, la première question que je leur pose, quand est-ce que vous allez rentrer en France? Ils disent, quand les dépenses baisseront. Parce qu'en réalité, c'est la théorie du matelas d'eau. Vous ne pouvez pas baisser la fiscalité, même sur le capital, si
Là, elle baisse quand même massivement, la fiscalité du capital.
Mais elle a baissé dans des proportions. Elle a baissé dans des proportions qui sont, mais qui ne sont pas l'équivalent. On est encore plus taxé qu'ailleurs.
On est toujours
plus taxé qu'ailleurs. Mais quel est notre intérêt? Notre intérêt,
est-ce que c'est de traiter la question des inégalités?
Est-ce que notre intérêt, c'est de faire créer des emplois chez nous, en France? Alors, c'est de faire investir les investisseurs français chez nous? Ou est-ce que c'est de les encourager à partir? On avait des très belles entreprises de taille intermédiaire françaises. Ils ont vendu parfois à des fonds de pension étrangers. C'est pas mieux, parce que résultat, l'emploi a disparu de nos territoires.
Mathieu Plane pour répondre, et on va retourner au standard rapide.
Non, juste pour dire, je ne suis pas sûr que justement ne pas flécher et réformer la fiscalité du capital va vous assurer des financements des ETI, par exemple, ou des PME les plus innovantes.
Là, on a plein
aujourd'hui,
de choses.
Vous allez dire diminuer la fiscalité du capital, mais premièrement, beaucoup d'entreprises n'ont pas de difficultés de financement. L'investissement en France est plutôt élevé, il y a des problèmes plutôt de qualité d'investissement. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les 5 milliards vous assurent aujourd'hui de trouver les bons financements aux bons endroits pour les bonnes entreprises? Ça, j'en suis pas sûr. Donc,
il y a une occasion qui a
été manquée. Aujourd'hui, il y avait aussi, par exemple, pour l'ISF, il y avait un crédit d'impôt pour l'investissement dans les PME, il est retiré. Donc comment on va faire? Enfin, il y avait déjà des orientations qui étaient assez intéressantes. Alors on peut dire que c'est des niches fiscales. Effectivement, la réforme de l'ISF simplifier les choses, mais pour autant, je suis pas sûr qu'on aura un bon fléchage.
Mais c'est une erreur de ce gouvernement de ne pas avoir fléché en regard de la baisse de la fiscalité du capital, avec une mesure sur l'impôt sur le revenu finançant les PME. Ça, nous les avions prévenus dès le départ en leur disant il faut absolument une mesure
l'équivalent. Donc ça suffit pas de baisser la fiscalité du capital.
Non, mais la fiscalité du capital, par exemple, au Royaume-Uni, elle est faible. Mais les ménages britanniques...
Non, elle n'est pas faible, ce qui est pas vrai.
Les ménages britanniques, en face, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont aussi une mesure qui permet d'investir jusqu'à 1 million de livres en capital d'une PME, ou de plusieurs PME ou TPE. Tout ça avec une réduction d'impôt à 30% de l'investissement. Ça veut dire qu'il y a une vraie incitation à financer le risque. Parce que financer des TPE et des PME sur le territoire, c'est très risqué. Il y a beaucoup de risques aussi pour qu'elles disparaissent, l'investissement soit perdu.
Donc on est d'accord là-dessus, même avec une fiscalité moins importante, ceux qui ont les moyens d'investir dans les PME-TPE ne l'ont pas fait, y compris avec une baisse de fiscalité.
Ils ne le feront que s'il y a un vrai fléchage.
Voilà, et pour le moment, la fiscalité, la réforme a été faite sans fléchage. Donc effectivement, il y a un gain important pour les détenteurs de fiscalité du capital. Ils ne sont pas obligés en plus d'investir en France. Parce que quand vous avez une baisse de l'IS, c'est attractif parce que vous allez investir en France. Là, la baisse de la fiscalité du patrimoine ne vous garantit pas en plus que ces investissements.
Oui, mais parce qu'on est dans l'Europe et on ne peut pas obliger aujourd'hui à investir. On ne peut même pas obliger à investir dans une PME française. Donc, D'où le fait d'avoir non pas des incitations qui passent par des banques ou par des fonds intermédiaires, mais qui aillent en direct. C'est-à-dire que celui qui a vendu son entreprise en Bretagne, il va financer les jeunes entreprises en Bretagne, à côté de chez lui, et celui qui est dans la Creuse,
Et pour l'instant, on n'y est pas, et on verra en matière de pure économie ce qu'annoncera Emmanuel Macron, on le verra dans un instant. On reprend le téléphone Sonic XXL juste après le journal de Sébastien Pavot.
France Inter. Le 18-20.
Et dans moins d'une heure maintenant, ce discours d'Emmanuel Macron tellement attendu, les réponses aux gilets jaunes. Il est vrai que du pouvoir d'achat jusqu'à une crise démocratique, quel chemin parcouru en tout juste un mois au gré de ce mouvement. On a commencé, vous vous en souvenez, en parlant de prix d'essence, et puis de CSG, et puis d'ISF, et puis de SMIC. Doucement, le débat est venu s'accrocher sur la personne même du président Macron. Il y est encore résolument. C'est pour ça qu'on attend aussi fortement cette déclaration à venir. Mais à travers lui, on parle aussi de l'exercice du pouvoir, son exercice du pouvoir à lui. L'État aussi est interrogé, dissolution, démission, la crise est entièrement sortie du champ purement social, crise de confiance, crise de défiance, et l'idée pour Emmanuel Macron, ce sera de sauver ce mandat, mais peut-être aussi bien au-delà. Crise de la démocratie représentative qui avait commencé bien avant Emmanuel Macron, mais qui lui tombe dessus, lui qui précisément avait choisi de parler directement au peuple en sautant par-dessus les corps intermédiaires. Le voilà, on en parlera, peut-être pris à son propre propre piège. Alors démocratie directe, réforme des institutions, ouverture de cahiers de doléances. C'est vrai qu'on mélange peut-être un peu institutions et émotions, qu'on essaye de plaquer « je suis en colère » sur un fonctionnement de l'État jugé suranné. Est-ce que c'est pour ça aussi que les sujets sur la faisabilité, on en parlait dans l'heure précédente, la faisabilité des réformes à faire finalement n'est plus la question. Est-ce que la démocratie est mal comprise? Est-ce qu'elle est confondue avec les réseaux sociaux et pour quels résultats? Comment tout cela s'organise derrière? Ce sera le thème de notre discussion jusqu'à 20h. Et en attendant donc la parole présidentielle, soyez les bienvenus. On est parti.
Fabienne Saint-Est. Édition spéciale.
Éric, c'est vous le premier. Bienvenue, Éric.
Oui, bonsoir. Donc, Éric, j'habite à Chartres, à 80 km de Paris. Et en fait, je vous appelle parce que moi, j'ai voté pour Macron au second tour, pas au premier tour, mais au second tour, sur la base d'un programme qui me semblait équilibré. Donc, ce qu'il avait dit est en train d'être fait. La hausse de la CSG, c'était dit. La baisse des cotisations salariales, ça a été fait. La baisse... Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été faites. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de revendications qui arrivent avec, depuis 4 semaines, la hausse des carburants dans un premier temps, puis de nouvelles revendications qui sont apparues au travers de ce mouvement. Mais ce mouvement, il est représenté toutes les semaines par 200 000 personnes. À peu près 200 000 personnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc on peut même le doubler ou le tripler. Ça fait 600 000 personnes au maximum. Plus les soutiens, mais plus les 2000 casseurs qui sont en train de retourner le programme d'un président qui a été élu démocratiquement il y a un an et demi sur la base d'un programme qu'il est en train de réaliser. Et donc j'ai le sentiment que mon vote, comme le vote de 20 millions de Français qui ont voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron, est en train d'être torpillé par 200 000 personnes qui, même si leurs revendications peuvent être compréhensibles, elle en demeure pas moins que c'est vrai, comme vous venez de le dire, que c'est souvent un mélange de beaucoup de choses, baisse des taxes, hausse des salaires, augmentation des retraites, etc. Donc c'est un mouvement qui ressemble quand même à un programme très populiste et qui ressemble certainement pas celui pour lequel 20 millions de Français ont voté. Et donc, pour conclure, ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister en ce moment, non pas à un mouvement social, mais à une sorte de troisième tour politique qui vise à torpiller le mandat du président démocratiquement élu il y a un an et demi?
Et merci pour cette entrée en matière, Éric, pour vous répondre, pour discuter autour de tous ces sujets jusqu'à 20h. Daniel Tartakovsky est là avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de l'histoire politique de la France au XXe siècle. Bonsoir, Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Vous aviez écrit il y a très peu de temps « Plus rien à faire, plus rien à foutre », la vraie crise de la démocratie, publiée chez Robert Laffont. Et au fond, probablement qu'on y est un petit peu. Daniel Tartakovsky, je voudrais commencer avec vous. Et pardon de cette question très large, mais au fond, c'est aussi ce que dit Éric. C'est qui le peuple, en fait?
C'est qui le peuple? Bonne question. Je crois que depuis une bonne quinzaine d'années, nous vivons une crise de la démocratie représentative qui se manifeste partout par le poids de l'abstention. Et il me semble qu'il y a eu deux types d'analyses. Une première analyse qui émanait de chercheurs, d'observateurs, mais également des acteurs, et qui consistait à mettre l'accent sur les formes de démocratie en acte, démocratie participative de toute nature. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que ce qui s'exprime aujourd'hui est une modalité de cet autre rapport au politique, cette autre modalité du politique. Et puis, avec quelques délais, on a vu s'affirmer des analyses qui ont d'ailleurs d'abord été le fait de chercheurs anglo-saxons travaillant aux États-Unis. Je pense à l'ouvrage de Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie, mettant l'accent sur un principe démocratique. Le peuple citoyen vote, mais il vote pour des hommes, ça pourrait être des femmes, mais en l'occurrence c'est des hommes, qu'il s'agisse de la Hongrie, qu'il s'agisse du Brésil, remettent en cause les principes du libéralisme politique avec lequel nous avons vécu tous pendant un siècle, qui ouvrent la voie à ce que Yascha Mounk appelle des démocratures pouvant elles-mêmes ouvrir la porte à des dictatures. Et je crois que ces de ces espoirs mis par d'aucuns sur la démocratie participative et cette inquiétude soulignée par d'autres à bon droit sur cette expression populaire qui met en cause nos principes et nos modalités de la démocratie ne se substituent pas l'une à l'autre. Nous vivons avec cette contradiction et je crois que la crise que nous traversons aujourd'hui, elle est l'expression de ces différentes modalités de remise en cause de la démocratie telle que nous l'avons connue.
Et Brice Teinturier, du coup, on a l'impression, quand on en écoute certains, qu'on peut se passer de représentants. Et c'est bien peut-être le premier mouvement, d'ailleurs, qui ne part pas d'un homme, qui file sur les réseaux sociaux. L'idée qu'on peut se passer de représentants, à un moment, on touche à la limite de ça, forcément, non ?
C'est effectivement extrêmement difficile parce que pour qu'il y ait une solution à des conflits qui, eux, sont légitimes, les conflits d'intérêts existent d'abord et sont légitimes dans une démocratie comme dans la vie d'un individu. Ils nous structurent, ils peuvent nous pousser vers l'avant, mais encore faut-il qu'il y ait un espace de négociation ensuite qui s'élabore et qu'il y ait des représentants pour porter les revendications, les négociations et établir des compromis. La difficulté actuelle, c'est qu'on est pas tout à fait dans un conflit, qu'il y a un espace de violence qui n'est pas ensuite canalisé par de la représentation chez les Gilets jaunes et qui permettent d'organiser du coup les solutions. Mais je voudrais revenir, si vous me permettez une seconde, sur la question d'Éric.
Allez.
Parce qu'il est parti de ce point qui est absolu, qui est la légitimité d'Emmanuel Macron élu par une très forte majorité, les deux tiers des Français, au second tour. Mais pour autant, il faut revenir quand même aussi sur le premier tour. Un président élu au second tour contre le Front National comme Jacques Chirac en 2002 et Emmanuel Macron draine énormément de suffrages. Ça ne veut pas dire, ce serait un contresens, qu'il a derrière lui 20 millions ou X millions de Français qui ont approuvé sa politique. A fortiori, quand on avait un taux d'abstention, il faut aussi le rappeler, qui a été important. Donc oui, bien sûr, il faut le dire et le redire, la légitimité d'Emmanuel Macron est totale dans une démocratie représentative où il y a eu de vraies élections. On n'est pas dans une démocrature, heureusement. Mais malgré tout, on ne peut pas en déduire que ce qui se produit aujourd'hui serait artificiel ou contestable. Il y a une crise sociale qui vient de très loin, il y a une crise politique, il y a une crise démocratique, et on en voit les faits en ce moment.
Daniel Tartakovsky, je reviens moi aussi sur ce que disait Éric, qui parle d'abord de la violence. Au fond, ce qui fait qu'Emmanuel Macron sort du bois aujourd'hui, si les mesures sont attendues avec autant d'impatience, est-ce que c'est parce qu'il a pris, selon vous, la mesure de la crise sociale, de la crise démocratique, ou est-ce que c'est la violence ce qui change totalement la donne, au fond, de ce qu'on va entendre?
Je crois que s'il avait pris la mesure de la crise sociale, il aurait réagi plus tôt, d'une certaine manière, beaucoup plus tôt. Cette attitude qui a consisté à des reculs successifs. Enfin, quand on recule, il faut reculer sur le point qui permet ensuite de reprendre l'offensive. Alors là, on a eu des reculs qui n'en étaient pas.
C'est comme ça que fonctionne le CRS, c'est ce qui nous explique. Reculer d'abord pour avancer.
J'ajoute que la crise sociale, elle ne naît pas avec les Gilets jaunes. Le mouvement social en France a connu ces derniers mois trois grandes défaites. La première était dans le quinquennat antérieur, mais rappelons-nous le mouvement contre la loi El Khomri, le mouvement contre la loi Pénicaud, le mouvement de la SNCF, et je crois que après la victoire remportée contre les cheminots, le président de la République a eu incontestablement le sentiment qu'il avait la voie libre et qu'il pouvait continuer sans l'ombre d'un obstacle. Quelque chose d'autre s'est forgé, mais qui cristallise, je crois, toute une série d'inquiétudes, qui, vous le disiez, pour certaines, remontent à plusieurs décennies. Mais on a une cristallisation d'inquiétudes qui sont le fruit des mutations profondes auxquelles nous sommes tous confrontés.
Brice Teinturier, avant qu'on retourne au standard.
Oui, je crois qu'il n'y a pas uniquement la violence qui fait bouger aujourd'hui Emmanuel Macron et le gouvernement. Certes, et je reviens à Éric, il n'y a entre guillemets que 200 000 manifestants. Il a raison de le souligner ou de le rappeler. Mais ce qui est aussi incontestable, c'est que ces manifestants sont soutenus par des pans entiers de la société. Le soutien est en train de s'éroder, en partie à cause de la violence, en partie à cause des conséquences économiques de ce mouvement qui commence à inquiéter les Français. Mais derrière les 200 000, on va dire, manifestants actifs, ou les 130 000, c'est le chiffre qui avait été donné pour ce week-end, il y a malgré tout des millions de Français qui s'identifient aux revendications, aux malaises, aux aspirations portées par les Gilets jaunes. Et c'est ça qui change la donne, c'est ça qui fait que ce n'est pas uniquement 200 000 et qui fait bouger aussi le pouvoir.
Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Sylvain, on vous écoute.
Je vous remercie. Je travaille depuis l'âge de de 16 ans. Aujourd'hui, je suis retraité et je suis obligé de travailler. Je pense que au fil de ces années, il me semble que on a détricoté les acquis des 30 Glorieuses. Et en élisant un individu à la tête d'un État et qui décide en fait d'appliquer son programme et qui n'écoute pas en fait ce qui vient de la base en fait, ce qui vient des citoyens. Pour ma part, moi je pense qu'il faudrait revoir nos institutions et proposer excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Des conseils citoyens avec des cahiers de doléances, voilà, que le peuple puisse s'exprimer et qu'on ne suive pas aveuglément les motifs qui sont des motifs financiers essentiellement au détriment de la société, quoi.
Merci pour votre question, Sylvain. Daniel Tartakovsky, c'est ce que vous disiez sur la démocratie participative. Ce besoin, cette envie de démocratie participative, les cahiers de doléances, ils sont déjà ouverts dans certaines mairies et ça va se poursuivre. Ça dit quand même quelque chose de l'état de notre démocratie et de ce que nous en avons fait.
Oui, mais enfin, pour revenir sur ce que disait Sylvain, je ne crois pas que ce soit nos institutions qui soient les responsables du détricotage de notre état social. Notre état social, il résulte d'un compromis transpartisan qui a été noué à la libération par l'ensemble des forces politiques, depuis les communistes jusqu'à la droite nationale, en passant évidemment par les gaullistes, soutenus par l'ensemble des deux confédérations syndicales. La constitution de 58, qui est la nôtre, malgré les mutations constitutionnelles, est une constitution qui a conforté, d'une certaine manière, dans des formes qui étaient celles du général de Gaulle, mais qui a conforté cet état social dont le général de Gaulle a été un des artisans. Donc, le détricotage de l'état social, qui est un fait, c'est quelque chose qui débute avec le début des années 80, et donc la notion droite-gauche est extrêmement brouillée s'agissant de cette question, et tient à ce renversement de conjoncture économique que la planète a connue à partir du milieu des années 70 et avec lequel nous avons avancé aujourd'hui.
Je voudrais reformuler, j'espère que je ne me trompe pas, ce que dit notre ami auditeur. Il nous dit qu'en gros, il y a un individu à la tête de l'État et qu'ensuite, il n'écoute plus sa base. À partir de quel moment est-ce que c'est chiffrable? Comment on peut dire ça? À partir de quel moment on considère que cet individu qui a été élu et qui est à la tête de l'État, effectivement, légalement, décemment doit quoi? Redemander l'avis au peuple? Passer la main? À quel moment ça peut exister? Est-ce que ça doit exister en démocratie puisqu'on élit un président après tout pour 5 ans? Et normalement, on est parti pour 5 ans.
Enfin, en principe, nous sommes dans un État où il existe ce qu'on appelle aujourd'hui, pour aller vite, les corps intermédiaires, c'est-à-dire où les élus locaux étaient des intermédiaires majeurs de l'organisation de notre territoire et de la vie économique et sociale sur notre territoire, où les organisations syndicales étaient des acteurs majeurs, vous le disiez tout à l'heure, pour pouvoir négocier dans des situations de crise et aller de l'avant et renouer autant que faire se pouvait des compromis sociaux, partiels ou plus globaux, où les partis politiques étaient des acteurs qui pensaient le devenir et qui pensaient la contradiction. Il est indéniable que Emmanuel Macron, et là je ne dis pas la constitution de la Ve République, je dis Emmanuel Macron et les réformes constitutionnelles qu'il envisageait et qui bien sûr vont être un petit peu compliquées dans le contexte à mettre en œuvre, visaient à laminer l'ensemble de ces intermédiaires et par là même débouchaient sur ce que vous venez de dénoncer.
Brice Teinturier, quand on entend Macron démission, est-ce que ça veut réellement dire, au fond d'ailleurs même, aux yeux des gens, Macron démission, c'est-à-dire on recommence, on refait des élections?
Non, mais ça veut dire Macron démission aux yeux d'une partie des gens. Mais votre question, tout comme celle de Sylvain, elle est extraordinairement compliquée parce qu'elle dit à la fois que on ne peut pas épuiser la légitimité démocratique uniquement en ayant une habilitation à prendre de la décision, validée par un vote, et puis ensuite, j'ai envie de dire, au revoir, comme s'il ne se passait rien. Et du coup, c'est ce que Sylvain, je crois, dit. Ouais. Il faut retremper cette légitimité.
À quel moment
initiale.
Le vote ne suffit plus, en fait?
Et à quel moment, c'est toute la question. On peut prendre un certain nombre de critères. Vous avez des indicateurs de suivi de l'opinion qui permettent de tester la popularité du pouvoir ou l'adhésion à telle ou telle réforme. Mais ça n'a pas à invalider un processus électoral. En revanche, quand vous avez une conjonction d'indicateurs, je crois qu'il faut raisonner à partir de cette conjonction, des enquêtes qui permettent de faire remonter l'idée que les Français ne sont pas d'accord, des mouvements de manifestations qui deviennent extrêmement importants ou qui pourraient bloquer bloquer l'économie et la vie du pays, tout simplement. Une violence qui aussi s'accompagne dans ces mouvements. À ce moment-là, la légitimité des urnes, elle reste intacte, je crois qu'il faut le rappeler, mais elle ne suffit plus. Donc c'est quand vous avez la conjonction de tous ces facteurs qu'il est, je crois, impératif que le pouvoir soit capable de bouger, d'entendre, de éventuellement bouger aussi par rapport à ses promesses initiales.
Et là, sur une échelle de 1 à 10, avant d'arriver là où vous décrivez, vous diriez qu'on est où, nous ?
On est à un niveau, moi je crois, qui est quand même extrêmement important.
Ah,
d'abord,
on est à 8, 9.
D'abord parce que, pardonnez-moi, mais je n'ai jamais vu une intervention présidentielle permettre de transformer substantiellement la donne. Mmh. Donc le contenu de ce que va dire Emmanuel Macron, pas la façon, sa communication, etc., tout ça est important, mais c'est pas l'essentiel. Ce qu'il va véritablement apporter comme preuve en direction des Français pour leur dire « j'ai compris un certain nombre de choses, je change un certain nombre de choses » est extrêmement important pour la suite. S'il arrive à les convaincre avec réellement des éléments concrets, on peut sortir de ce moment qui est un moment tout autant de violence que de conflit. S'il n'y arrive pas, on n'a pas une structure d'encadrement et de gestion du conflit, puisque on a le problème de la représentation aussi des Gilets jaunes et des négociations et des compromis qui pourraient être passés.
Daniel Tartakovsky, je ne voudrais pas employer de trop grands mots, mais est-ce que la démocratie peut être emportée dans cette vague telle qu'on la connaît, on va dire, la démocratie telle qu'on la connaît, telle qu'on la pratique pour l'instant?
Il y a eu une enquête il y a quelques mois dans l'ensemble des pays européens et on demandait aux personnes interrogées si elles considéraient que la démocratie est-elle le meilleur des régimes. En France, 36% des Français ne considèrent plus que la démocratie est le meilleur des régimes.
Peut-être parce qu'on n'a pas connu autre chose, en fait.
De la même manière, les enquêtes récentes, mais vous le savez mieux, vous pourriez le dire mieux que moi, 27% des personnes interrogées considéraient que la violence dans la conjoncture courte où nous nous trouvions était acceptable. C'est des indicateurs qui sont très inquiétants. Qui sont très inquiétants sur le rapport des Français, non pas à la démocratie, puisqu'on peut avoir des quantités de conceptions de la démocratie, mais à la démocratie, à notre système démocratique avec lequel nous avons vécu pendant des décennies.
Autant de questions, Brice Teinturier, qu'on a le luxe de pouvoir poser, nous, dans nos pays démocratiques, au fond.
Oui, mais ce sont des indicateurs que j'ai mis en place à Ipsos avec Le Monde à partir de 2013. La question précise étant, est-ce qu'il y a d'autres régimes qui seraient tout aussi bons que la démocratie ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et on avait 24% de Français déjà en 2013 qui nous disaient, d'autres régimes seraient tout aussi bons que la démocratie. Pardonnez-moi, mais ça m'avait fait sursauter quand même, un Français sur 4.
C'est ce que j'allais vous demander.
Ça n'a cessé d'augmenter d'année en année, y compris après l'élection d'Emmanuel Macron. Et on est effectivement aujourd'hui à plutôt 36%.
Mais c'est quoi d'autres régimes, Alors, Alice Teinturier?
On a eu envie de savoir, évidemment, mais qu'est-ce qu'ils mettent derrière d'autres régimes? Et nous avons testé des scénarios, un scénario autoritaire, il y a une demande d'autorité dans ce pays qui est très forte et depuis longtemps, un scénario plus technocratique où on ubériserait, entre guillemets, les élus et on aurait comme ça une espèce de vie qui se ferait uniquement entre des experts et les citoyens, et puis un scénario participationniste. Si je vais directement à l'essentiel, tous ces scénarios ont trouvé un écho dans une partie de la population, mais la demande majeure, c'est le scénario participationniste. C'est le scénario qu'évoquait Sylvain tout à l'heure. C'est-à-dire une demande d'amélioration de la démocratie représentative par des mécanismes beaucoup plus permanents où on retrempe en permanence la légitimité des décisions prises, où la société a envie de participer à l'élaboration de la loi, ce qui ne veut pas dire remplacer les députés, encore une fois, ils sont là et leur mission, elle est claire, mais participer au processus d'amélioration, d'élaboration, de contrôle également de la loi.
Ben justement, tiens, voilà cette question sur franceinter.fr. Nous avons élu des députés pour nous représenter. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ne remontent pas nos problèmes, mais qu'ils obéissent à leur chef de file ou au président. Ce n'est donc pas surprenant que les citoyens se sentent seuls. Je voudrais ajouter à cette question celle de Joël. Bonsoir Joël.
Bonsoir.
On vous écoute,
merci
allez-y.
Merci de prendre mon témoignage. Oui, très rapidement, donc en 2014, notre secteur a vu une hausse de sa TVA de 7 à 20%. Plutôt qu'une manifestation, nous avions obtenu un entretien, une entrevue avec notre préfet, donc qui a duré 2 heures, préfet Énarc, qui ne connaissait pas du tout le fonctionnement de notre secteur. Au bout de ces 2 heures d'explication, il nous a dit que de toute façon, il n'arrivait du mal à joindre le ministère et qu'il ne tenait jamais compte des remarques qu'il pouvait faire. Donc ça, c'est voilà. Après un entretien comme ça, on ne sait plus quoi faire quand on sort. Autre petit témoignage, je loue un équipement, une collectivité. J'ai rencontré notre députée et qui n'a pas pu non plus intervenir parce que elle mettait en cause d'autres élus du secteur. Donc les élus entre eux ne se contredisent rarement, voilà, même s'ils ne sont pas du même bord politique.
Merci.
Donc le citoyen lambda a très très peu de possibilités de faire remonter une revendication.
Merci beaucoup Joël pour cette question. Ce qu'on entend dans ce que dit Joël et ce qu'on entend beaucoup dans les questions finalement, Daniel Tartakovsky, c'est les outils on les a, peut-être qu'on n'utilise plus les outils, on ne peut plus utiliser les outils tels qu'ils devraient exister, ils ont même été dévoyés au fond.
Ben, les outils on les a...
C'est-à-dire le député, le préfet,
oui,
l'interlocuteur.
Oui, mais quand même, oui mais, n'oublions pas que Emmanuel Macron l'a largement emporté en tenant un discours, je n'aime pas le terme de dégagisme, mais enfin qui participait néanmoins de ce qu'on a appelé plus globalement, et ça pouvait aller vite, le dégagisme, que La République En Marche, enfin ce qui n'était pas encore La République, que En Marche a été constitué par un appel à ce que Macron appelait la société civile, c'est-à-dire un appui sur des forces vives, disait-il, sur le...
Mais... C'est là qu'il se tire une balle dans le pied, peut-être.
On a eu un renouvellement total... Enfin, En Marche est constitué très largement par des hommes et des femmes qui ont certes une connaissance des pratiques professionnelles qui étaient les leurs, mais qui n'ont pas d'ancrage de terrain. Je pense que, enfin, je fais partie de ceux qui sont très dubitatifs sur le problème du cumul des mandats. Ça fait partie d'un discours anti-parlementariste qui apparaissait comme une solution à tous les maux que nous connaissons. Mais l'intérêt du cumul limité, hein, c'était quand même d'avoir des élus nationaux qui avaient été maires de grandes villes ou qui avaient été des élus locaux et qui avaient donc une connaissance de tous ces problèmes que notre auditeur évoque et dont il dit qu'il a affaire à des élus qui ne le connaissent pas. Pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une société civile qui se dresse contre une autre société civile. Donc je crois que les outils ont été pervertis.
Brice Teinturier ?
Moi, je crois tout simplement que les outils, nous ne les avons pas. Parce que d'abord, un député n'est pas le représentant des intérêts de sa circonscription. Dans la Constitution, le député est un représentant de la nation. Mais même indépendamment de cette question, ce que nous n'avons pas, c'est des corps intermédiaires puissants dans ce pays qui permettent de faire remonter les revendications, les problèmes d'un ensemble de professions. Donc très clairement, ce que disait notre auditeur, pour qu'elles soient prise en compte, écoutée, comprise, entendue. Donc les corps intermédiaires ne sont pas assez puissants. Conférences de consensus, les consultations, les mécanismes de représentation différents de ce qu'on peut avoir à travers le vote sont encore très faiblement développés. Donc nous avons cruellement besoin justement de rajouter des processus de démocratie dite participative. Il y en a, ça existe, ça permet de réinjecter le citoyen en permanence dans la décision, de faire remonter les choses, de faire en sorte que ce soit des citoyens qui puissent être éclairés aussi sur des enjeux, parce qu'on ne peut pas gérer une pluralité comme ça de problèmes. Donc la question, c'est véritablement de mettre en place ces outils.
Mais jusqu'à quel point il s'est tiré une balle dans le pied en ça, Emmanuel Macron ? Enfin, on se souvient pendant la campagne notamment que c'était quelqu'un qui voulait aller au contact. On se souvient des scènes devant Whirlpool, par exemple, ou des passages comme cela. Donc il veut aller au contact, il veut parler directement aux gens. Et ben là, il l'a. Du coup, les gens s'adressent directement à lui. Et non seulement lui a écrasé les corps intermédiaires, mais de toute façon, même les gens qui manifestent aujourd'hui ne veulent absolument pas s'adresser à aucun de ces corps intermédiaires non plus.
Oui, le problème, c'est qu'il était totalement persuadé, de par la culture qui est la sienne, que la pédagogie et la parole qu'il portait étaient suffisantes, était pour convaincre, d'où la volonté de s'adresser à tout un chacun au coin de la rue, puisque une fois qu'il avait parlé, pensait-il...
Mais ça a marché à un moment, non ? À un moment, ça a été séduisant pour les gens, cette stratégie-là.
Non, je crois que la promesse essentielle de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est « je vais débloquer ce pays en changeant la politique et en m'appuyant sur la société civile ». Et c'était une promesse qui répondait à quelque chose de très puissant dans le pays. Le sentiment de blocage, le sentiment qu'il fallait changer la politique et le sentiment qu'il fallait le faire en s'appuyant sur la société civile. Ça a marché au début parce qu'il l'a fait au début un peu comme cela. Je change la politique avec un gouvernement où je mets des gens de droite, des gens de gauche, des gens issus de la société civile, etc. Donc les Français, y compris ceux qui n'avaient pas voté pour Emmanuel Macron, y compris ceux qui désapprouvaient par exemple la réforme du marché du travail, ont considéré au début que c'était fidèle à la promesse et puis ils lui ont donné crédit d'un « on va voir, peut-être qu'il y aura des résultats ». Et progressivement ça s'est désagrégé, et ça s'est désagrégé parce que en revanche, il y avait aussi quelque chose d'orthogonal par rapport à cette promesse, qui était une conception du pouvoir dit jupitérien. Si vous démarrez en disant « je vais changer la politique et m'appuyer sur la société civile », vous ne pouvez pas avoir ensuite une pratique politique qui est extrêmement classique et verticale ou dite verticale.
Bonsoir Marie-Annick.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue au téléphone Sonne Marie-Annick, on vous écoute.
Merci. Écoutez, je viens parce que je voudrais exprimer une très grande inquiétude. Après avoir discuté avec des gilets jaunes, si je partage effectivement certaines de leurs revendications, à savoir celles relatives au pouvoir d'achat et à leur grande souffrance, je suis par contre très inquiète lorsqu'ils parlent de révolution, de guerre, lorsqu'ils demandent la démission de M. Macron, la suppression du Sénat, la dissolution de l'Assemblée nationale, et qu'ils veulent remplacer par une assemblée du peuple. Mais alors là, sans s'expliquer sur sa mise en place. Alors, le président donc qui va intervenir là ce soir ne va certainement pas satisfaire toutes leurs revendications. Donc j'en suis fortement inquiète parce que je me demande comment tout ça va évoluer. Et puis par ailleurs, je n'admets pas qu'un élu comme M. Ruffin dise qu'il est le président, élu démocratiquement pour 5 ans. Il peut dire qu'il n'est pas d'accord avec sa politique, mais on ne dit pas qu'on est un président. Ça ne fait que attiser les gilets jaunes.
Merci.
C'est vraiment pas bien.
Merci Marie-Annick. Daniel Tartakovsky, c'est ce que vous disiez aussi sur les uns contre les autres. Est-ce que c'est ça la vraie crainte finale, au fond, après ce conflit avec ce conflit des gilets jaunes? Parce qu'après, on n'y est pas encore.
La situation est inquiétante. Ceci dit, soyons attentifs. Ils disent que une des caractéristiques de ce mouvement, c'est qu'on ne sait pas qui est « il ». Et on ne sait pas d'ailleurs avec qui négocier. Alors, bien évidemment. Et alors, je crois que
ce sera difficile de demander d'ailleurs qui est d'accord avec ce qu'a dit le président ou pas. On en est d'accord avec ça.
Ou avec Ruffin.
Ou aussi avec Ruffin.
Mais une des caractéristiques du mouvement a amené les médias à multiplier les prises de parole, puisqu'on a affaire à un agglomérat d'individus qui s'expriment sur leur mal-être, mais qui s'expriment aussi sur la politique. Donc on a des paroles, et dans ces paroles on a effectivement des poussées de violence verbale avant d'être une violence dans la rue. Moi je suis très attentive à ce que dit notre auditrice, et je crois que effectivement la légitimité électorale existe et qu'il faut voir comment travailler des modalités nouvelles de l'expression démocratique avec la légitimité électorale, que le président Macron a une responsabilité extrêmement lourde ce soir. Mais ensuite, ne gonflons pas à l'excès des mots, encore que ces mots nous disent quelque chose sur la profondeur du mal-être.
Brice Teinturier.
Ce que vous dites, madame, est extrêmement important et correspond à ce que nous pouvons aussi mesurer à propos des soutiens et des gilets jaunes. Il y a chez les gilets jaunes et chez ceux qui les soutiennent une composante issue du Rassemblement national, de sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise. Et cette composante, elle est très importante. Et quand vous êtes dans cette conception-là, vous allez effectivement sur un désir d'assemblée constituante, de renouvellement, etc. Et il n'y a pas que cela. Et vous faites partie des gens qui, justement, disent « Mais moi, je peux être en identification et en accord avec certaines revendications des gilets jaunes, mais je ne suis pas forcément pour une révolution, pour une destitution, pour une assemblée constituante, parce que vous n'exprimez pas ce désir, que ce n'est pas votre vision. » Et effectivement, moi, je le mesure parfaitement, il y a parmi les soutiens aux gilets jaunes également des millions de Français qui s'identifient à certaines revendications, mais pas à celles-là. Et c'est toute la difficulté de ce mouvement, qui à la fois sur des revendications politiques et sur des revendications sociales, et les deux ne se recouvrent pas intégralement.
Mais est-ce que le risque, justement, c'est pas parce qu'on a beaucoup parlé effectivement de la différence entre les urbains et les périphériques, c'est un peu comme ça que tout ça a monté, est-ce que cette cassure entre ces deux mondes-là ne risque pas d'être encore plus importante entre ceux, au fond, qui étaient gilets jaunes et ceux qui ne le sont pas, parce qu'il faut aussi penser à ce qui se passera après, est-ce que ces deux mondes-là aujourd'hui sont réconciliables après avoir entendu des mots parfois durs comme ceux qu'on a entendus? Daniel Tartakovsky.
Je ne suis pas sûr que la césure politique, j'adhère absolument à votre analyse, que la césure politique recouvre une césure géographique. Il y a actuellement un certain nombre
Mais y compris une césure, donc, pardon, entre ceux qui sont d'accord, effectivement, plus ou moins avec les gilets jaunes, mais qui ne veulent pas aller jusqu'à un certain point.
Je ne pense pas que la France urbaine soit une France qui se réclame de la démission du président et d'une assemblée constituante, et que la France rurale, la France périphérique, soit exclusivement sur des revendications sociales. Je pense que les clivages politiques traversent ce mouvement et donc qu'ils traversent notre géographie. Alors bien sûr, il y a des voix qui se font entendre plus que d'autres parce qu'il y a des noms propres derrière et il y a des figures et qui savent se porter au premier plan. Mais le mouvement est complexe. Je vois mal comment...
Mais ce n'est pas la géographie qui explique le mieux ce mouvement. Donc il n'y a pas effectivement une France rurale.
Mais c'est ce que j'ai dit, parce qu'au démarrage, effectivement, c'est un peu la lecture qu'on en a fait. Les lectures aujourd'hui ont beaucoup évolué. Ma question était de savoir si
le mouvement
il peut y avoir, et c'est ça, c'est et le mouvement aussi, si donc il peut y avoir une réconciliation quand même entre ces deux Frances-là, entre la France finalement qui a été gilet jaune et puis l'autre, ou est-ce qu'on risque pas de traîner en fait cette différenciation pendant encore bien longtemps?
Mais en fait, ce que ça nous montre, c'est que ce pays, ce que nous savons depuis longtemps, est profondément fracturé, avec des fractures qui sont territoriales, mais également et avant tout, moi je crois, sociales, également des fractures politiques, et que le mouvement des gilets jaunes et le soutien dont il a bénéficié, dont il continue à bénéficier, quoi qu'en retrait, je le redis, il est en train de diminuer ce soutien. Il est fort parce que c'est en gros non pas telle ou telle catégorie politique ou telle revendication très spécifique qui s'affirme, c'est la classe moyenne ou la classe moyenne un peu en dessous, on va dire de la classe moyenne, et les milieux populaires qui défilent et qui protestent. Ça fait beaucoup de monde. Donc c'est pas simplement des ruraux par rapport à des urbains. C'est un mouvement d'une... Et on a rarement vu justement des mouvements aussi larges comme ça se mobiliser. Mais du coup, c'est ce mouvement qui se mobilise, mais avec des aspirations qui sont hétérogènes.
Gérard, sur franceinter.fr, nous dit le fondateur de la Ve République, donc on voit à peu près de qui il parle, chaque fois qu'il était confronté à un doute, il remettait son mandat en jeu. Le chef de l'État doit donc remettre en cause son mandat. L'idée de référendum plus régulier, et y compris de référendum couperet, revient beaucoup dans les questions des auditeurs, depuis le début de la crise d'ailleurs.
On a beaucoup comparé, totalement à tort, selon moi, ce que nous traversons en ce moment avec 68, les deux crises n'ont strictement aucun point de commun. Il est vrai que le général de Gaulle, le 30 mai, décide de la dissolution de l'Assemblée nationale, et comme le faisait toujours le général de Gaulle, et bien que la Constitution ne s'y prête pas, il y a le résultat des référendums, de les résultats électoraux à son maintien au pouvoir. Enfin, si le non l'emporte, je partirai, ça c'était le 24 mai, et le 30 mai... Bon, mais le problème, c'est que Emmanuel Macron n'est pas le général de Gaulle, là. Pardonnez-moi de ce truisme. Lorsque le général de Gaulle fait des référendums, sauf en 69, il sait qu'il va les gagner. Donc c'est une carte qu'on joue, et le général de Gaulle dispose d'une légitimité historique qu'Emmanuel Macron n'a évidemment pas. Il dispose d'une légitimité politique. Qu'il est l'homme il est un des acteurs du compromis social de 45, et encore une fois, d'une certaine manière, il le renoue dans une conjoncture nouvelle en 58. Alors, il y a l'exception 69, mais en 69, il sait qu'il a perdu parce qu'il sait qu'il est lâché par les siens, et c'est une manière de tirer sa révérence tout en se donnant comme l'acteur de l'histoire. Il est bien évident que si aujourd'hui il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, ou si le président Macron démissionnait, je doute que le rapport des forces dans l'une ou l'autre élection soit en sa faveur.
Brice Teinturier, je vous vois sourire.
Non, parce que je crois que ce n'est pas souhaitable non plus qu'on passe immédiatement à la dissolution ou à la démission d'un président en cas de conflit ou de conflit fort. Cela ne devient la seule issue qu'à la condition que vous ayez une conjonction de facteurs, ce qu'on a évoqué, qui rendent effectivement la crise à tel point dénouable, parce qu'elle est sociale, parce qu'elle est politique, parce qu'elle est institutionnelle, etc., etc., que vous n'avez plus que la dissolution comme solution. Mais on ne peut pas, dans n'importe quelle démocratie, se dire qu'on va dissoudre le slogan de Gaulle démission ou aujourd'hui Macron démission. C'est un slogan dont il faut bien peser la responsabilité. Ça peut satisfaire évidemment ceux qui sont opposés à Emmanuel Macron, mais ce n'est pas un mode non plus d'exercice de la démocratie qui peut être fait à chaque conflit, aussi important soit-il.
Quand on lance ce mot d'ordre, c'est la différence entre 68 et aujourd'hui, il vaut mieux avoir des stratégies d'alternatives.
Il y avait les forces politiques.
Il y avait
à
les forces politiques qui étaient porteuses de ce qui se donnait, non pas comme une alternance, mais comme une alternative. Elles ne sont pas présentes aujourd'hui.
Avant de retourner au standard, un tout petit bout de question, celle de Patrice, qui vous demande, au fond, quels sont les volants disponibles qui permettraient une meilleure représentativité en adéquation avec une démocratie moderne. Nos volants, nos leviers sont renversés intégralement la table, serait où, Daniel Tartakovsky?
Je crois que Brice Teinturier l'a énoncé tout à l'heure. On voit bien comment, à
quantité d'échelles, il y a une volonté des acteurs de prendre en charge leur coin de rue ou leur destin. Appuyons-nous sur toutes ces pratiques qui existent à l'échelle nationale et faisons en sorte qu'une articulation puisse s'opérer entre ces pratiques qui existent et puis le pouvoir d'État.
Johan, bonsoir, c'est vous le dernier et vous êtes le bienvenu, Johan.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Eh bien super, déjà merci bien d'avoir pris mon témoignage. Moi je voulais témoigner ce soir pour vous dire que moi j'ai 26 ans, je suis auvergnat, donc j'habite à côté de Clermont-Ferrand, j'écoute France Inter à peu près tous les jours, et là il y a quelque chose qui m'a percuté. Je suis un enfant un fils de parents de classe moyenne, et moi c'est surtout cette question de représentativité. Tout à l'heure vous parliez d'alternance par rapport à une certaine démocratie. Moi je suis carrément dans cette idée-là, d'une idée de participation et surtout d'expert. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je commence à avoir de grandes difficultés à comprendre pourquoi on fait un culte de la personnalité d'une seule personne. Voilà, pourquoi on élit un monsieur Macron ou un monsieur Sarkozy ou quelqu'un d'autre.
Johan, on a bien compris le sens de votre question et pardon de vous interrompre, mais comme il faut qu'on soit à 8h pile tout à l'heure, juste la réponse, Brice Teinturier. C'est intéressant qu'un jeune homme de 26 ans dise qu'au fond, l'élection, c'est le culte d'une personnalité.
Ce que nous voyons, c'est tout à fait cohérent avec ce que nous mesurons dans nos enquêtes, c'est qu'effectivement, je ne sais pas très bien quel âge vous avez, et je salue,
26,
parce que je suis moi
26.
Aussi auvergnat. Oui, 26 ans, pardon. Mais c'est tout à fait cohérent avec ce que nous mesurons. Les moins de 35 ans, donc si vous avez 26 ans, c'est bien cela, sont encore plus dans un détachement à l'égard de la démocratie représentative classique, et considère que c'est un processus qui est trop personnalisé, qu'il faut y ajouter d'autres formes de démocratie. Mais moi, je voudrais juste insister sur l'extrême difficulté de trouver ces modes participationnistes qui sont multiples, mais qui ne sont pas simples à conjuguer ensuite avec la démocratie représentative.
Et preuve que ce débat n'est pas fini, on sera ravis de l'avoir à nouveau avec vous. Merci beaucoup, merci mille fois pour toutes les questions. On attend ce que va dire Emmanuel Macron, et ce sera dans une poignée de minutes maintenant.